Bonsoir, comment allez-vous? Avez-vous remarqué, mes chatons, comme le joli mois de mai est quasiment le seul mois sans vacances scolaires pour aucune zone? J'exclus juin et septembre qui encadrent les grandes vacances. Savez-vous, mes chéris, combien de jours de vacances par an ont les travailleurs des Philippines, par exemple? 5. Ça calme. Et les Chinois, 10. 10 jours, comme les Canadiens. Les Américains du Nord, chez qui pourtant tout est grand, n'ont environ que 15 jours, suivant les entreprises. Quant aux Japonais, souvent ils ne prennent que quelques jours. Je dis prennent, car en fait ils ont droit à 20 jours de vacances par an, mais n'osent pas les réclamer de peur d'être mal vus. Voilà mes agneaux, je voulais également vous dire que si pour vous mai est maigre en jours off, nous les adultes en revanche, nous avons le 1er mai fête du travail, le 8 mai qui célèbre la victoire de 1945, le 25 mai jeudi de l'Ascension, qui offre un joli pont avec le week-end. Le joli mois de mai est joli non pas parce que c'est le mois de la Sainte Vierge, comme l'affirmait ma grand-mère, mais parce que c'est le mois des ponts. Cela dit, j'ai toujours trouvé qu'un pont tenait du miracle.
Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 4 ans, je voudrais savoir quel a été le pont le plus compliqué à construire dans le monde. Merci.
J'adore ta voix, c'est de la graine d'ingénieur, Simon Michel Virlogeux.
Alors, quel est le plus compliqué? Je ne sais pas trop, mais je vais un peu tricher et je vais plutôt parler du pont sur le Bosphore que nous venons de terminer.
Le troisième pont du Bosphore.
Le troisième pont sur le Bosphore, dont je suis le concepteur avec un ingénieur suisse et un très bon ami qui s'appelle Jean-François Klein. C'est un pont compliqué. Pourquoi? Eh bien parce qu'il porte à la fois une autoroute, et puis une grosse, hein, 4 voies de circulation dans chaque sens, plus 2 voies de chemin de fer. Et pas un métro, hein, des voies de chemin de fer de l'Union internationale des chemins de fer, c'est-à-dire que pour chaque voie de chemin de fer, la charge est de 8 tonnes par mètre linéaire, et il faut en plus, par sécurité, pour prévoir l'avenir, multiplier ça par 1,33.
C'est du lourd.
C'est du très lourd. En plus, si vous voulez, le Bosphore est quand même très large. Il n'est pas aussi large que le pont le plus grand du monde, qui est le pont d'Akashi-Kaikyo, qui fait 1991 mètres, mais notre pont, il fait quand même 1408 mètres de portée entre les pylônes. C'est très très grand. Et il y avait une autre contrainte très importante, c'est que le gouvernement turc voulait que ce pont, qui fait partie d'une autoroute de 150 km entre l'Anatolie, donc l'Asie, et l'Europe, une autoroute qui est faite pour désengorger la ville d'Istanbul, qui est complètement saturée, eh bien ce pont, il voulait qu'il soit d'une grande qualité architecturale. Et en plus, il voulait qu'il ait des formes qui soient proches des formes des deux premiers ponts sur le Bosphore, qui ont été construits l'un à la fin des années 60 ou mis en service, je crois, en 70, et l'autre dans les années 80, et qui sont des ponts à tablier profilé, c'est-à-dire des tabliers minces, comme le pont de Normandie. Et évidemment, ça ne permettait pas, à mon avis, pour faire un pont qui soit beau, de construire la solution classique pour les ponts mixtes rail-route, c'est-à-dire des grands treillis, c'est-à-dire des tabliers très épais, très hauts, qui font 12 à 15 mètres de hauteur, constitués d'une série de barres.
Le tablier, Michel Virlogeux, c'est le plat du pont.
Le tablier, c'est là que circulent les voitures et les trains. Et donc, un grand treillis comme ça, ça n'aurait pas été beau. Pour Jean-François et pour moi, il fallait que nous dessinions un ouvrage à un seul niveau, avec au même niveau les 2 chaussées autoroutières, les 8 voies de circulation et les 2 voies de chemin de fer, plus les trottoirs. Les trottoirs qui sont interdits aux piétons, mais qui servent pour l'entretien. Et ça, ça conduit à une largeur absolument énorme, 58,50 m. C'est presque la largeur des Champs-Élysées. Et il y avait une autre contrainte. Pour une portée aussi grande, la portée c'est la distance entre les pylônes, 1408 mètres, eh bien la solution classique c'est un pont suspendu, c'est-à-dire avec des grands câbles qui passent au sommet des pylônes, qui vont s'ancrer dans les rives et auxquels on vient suspendre le tablier. Mais si on avait un tablier profilé, donc mince, il fait 5 mètres à peu près, à ce moment-là on aurait eu des déformations verticales, c'est-à-dire qu'au passage des trains, le pont aurait descendu de plusieurs mètres et ça c'était peu compatible avec la circulation des trains. Et donc, nous avons repris une très très vieille idée, une idée du 19e siècle, celle du pont de Brooklyn, en associant à la fois des câbles de suspension et des haubans, c'est-à-dire des câbles qui sont ancrés dans le tablier et qui vont directement s'ancrer dans le pylône. Et comme il y en a de l'autre côté, eh bien, c'est beaucoup plus raide parce que les forces, les charges, peuvent directement passer de l'endroit où elles sont appliquées sur le tablier au pylône, et de là, par d'autres haubans derrière, elles viennent s'ancrer dans le sol. Et donc, ça a été une structure complexe dont on n'avait plus l'habitude, puisqu'on n'en avait pas construit depuis plus de 100 ans. Et donc, il a fallu réinventer beaucoup de choses, en particulier, comme on ne voulait pas, à cause des séismes, avoir un blocage du tablier sur un des pylônes, eh bien, on avait un tablier qui était un peu une balançoire longitudinale, et il a fallu trouver des moyens de limiter le déplacement longitudinal du tablier, par exemple en mettant ce qu'on appelle des appareils d'appui pendulaire, qui sont des appareils un peu compliqués, qu'on utilise en séisme pour freiner les mouvements des bâtiments.
Ce qui est beau, Michel Virlogeux, c'est que finalement, avec ces techniques ultra-modernes que vous utilisez, vous êtes quand même allé voir un ancien pont, et c'est ça qui vous a sauvé.
Alors, de façon générale, beaucoup d'idées ont été utilisées depuis longtemps. Ce matin, je faisais mon premier cours de conception des ponts à l'école des ponts et chaussées, et j'ai commencé par montrer des passerelles primitives, des passerelles de lianes en Afrique, des dalles de pierre, des ponts en bois, des passerelles en bois dans l'Himalaya, des ponts suspendus en chaîne de fer construits par les moines tibétains au VIe siècle. Parce que, en réalité, beaucoup d'idées existent depuis très longtemps. Simplement, il faut les adapter aux besoins modernes, parce qu'aujourd'hui, on construit des ponts de plus en plus grands, aux matériaux modernes. On a aujourd'hui des aciers absolument fantastiques, on a des bétons à très forte résistance. On est aussi aujourd'hui capable d'évaluer l'effet des séismes, l'effet du vent. Mais beaucoup d'idées existe depuis très longtemps.
Michel Virlogeux est ingénieur, vous vous en doutez, consultant et donc concepteur de grands ponts comme ce pont Sultan Selim dont nous venons de parler, comme également le pont de l'île de Ré ou bien le viaduc de Millau. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour y répondre. Tout à l'heure, Claude Quettel nous dira ce qu'on faisait des fous avant qu'ils aillent dans les hôpitaux psychiatriques. Patrick Voyot, s'il existe des mines de pierres précieuses en France, et André Braïc nous dira si on peut faire le tour de l'univers.
Je sais, je sais. I love you. I love you. Il y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Pépère, t'aurais pas comme une vieille nostalgie de Guili Guili, Bugatti, des oh la la la, des soirées de gala, Riviera. Y'a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers, je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Le casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers, je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire.
Vous connaissez bien cette rumba d'Alain Souchon, chantée par Catherine, y'a de la rumba dans l'air.
Les petits bateaux sur France Inter.
L'astrophysicien André Braik est mort l'année dernière. Ça fera pile un an demain, lundi 15 mai. Et au petit bateau, nous l'aimions vraiment beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Emily. Je voudrais savoir comment est-ce que les astronautes, dans une navette spatiale, à la vitesse de 150 km/h, pourraient faire le tour de l'univers. Est-ce possible en 5 ou 10 ans ? Merci de répondre.
Émilie a pensé à tout, André Braik. La vitesse et la durée du voyage.
Émilie, je voudrais pas la décevoir, mais 150 km à l'heure, c'est une vitesse extrêmement lente. C'est un escargot rhumatisant et très âgé, qui est à la retraite depuis longtemps. C'est rien du tout, parce que dans l'univers, les vitesses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus considérables. Et puis quand on parle de vitesse, il faut savoir par rapport à quoi. Par exemple, Émilie en ce moment est sur Terre. Elle a l'impression qu'elle est immobile, elle est assise dans sa chaise. Or, elle fait un tour de la Terre en 24 heures. Si elle est à l'équateur, ça veut dire qu'elle fait 40 000 km en 24 heures. Mais en même temps, la Terre tourne autour du Soleil. Et autour du Soleil, nous faisons un tour en un an et nous déplaçons à 30 km par seconde. En même temps, le Soleil tourne autour du centre de la galaxie. Et là, il se déplace à 250 km par seconde. Et il met à peu près 200 millions d'années pour faire un tour. En même temps, la galaxie est attirée par l'amas de la Vierge. Et nous courons vers l'amas de la Vierge à une vitesse de 1000 km par seconde. Et en même temps, l'amas de la Vierge est attiré par ce qu'on appelle le grand attracteur. Et là, on y va à 1500, 2000 km par seconde, etc. Autrement dit, dans l'univers, tout tourne, tout bouge, tout est agité, tout est sans arrêt en mouvement. Et les vitesses considérées sont de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Alors 150 km heure, alors là, c'est ridiculement faible. Et puis dans l'univers, il n'y a pas de radar, donc on peut y aller.
Bien. Donc, le 150 km heure, ça marche pas, mais...
Alors maintenant, le tour de l'univers.
Voilà, en 5 ou 10 ans.
Alors le temps de l'univers, il faut savoir que l'univers est lui-même en expansion et que nous voyons que les objets qui sont les plus loin de nous s'éloignent de nous rapidement. Alors on a cherché, en tant qu'astronome, quels sont les objets les plus lointains qu'on ait observés. Eh bien, le record du monde pour l'instant est détenu par un objet dont nous avons reçu la lumière. La lumière de cet objet est partie il y a 13,1 milliards d'années.
Oh, mon Dieu.
Donc à la vitesse de 300 000 km par seconde, je dis bien 300 000 km par seconde, eh bien, le grain de lumière a mis 13 milliards d'années, 13,1 milliards d'années pour nous parvenir. Alors, si on voulait faire le tour de l'univers, on ne pourrait pas pour plusieurs raisons, parce qu'on ne peut pas atteindre la vitesse de lumière, bien entendu. Et même, et l'univers étant lui-même en expansion, on ne rattraperait pas les objets de toute manière. Donc, on ne fera jamais le tour de l'univers. Et nous avons une limite qu'on ne peut pas franchir avec la vitesse de la lumière. Sinon, il y a un tas de contradictions qui arrivent. J'en donnais juste une. Si on pouvait franchir la vitesse de la lumière, nous pourrions remonter dans le passé. Et si on remontait dans le passé, on pourrait rencontrer son grand-père. On pouvait tuer son grand-père. Et si on tuait son grand-père, on n'existerait pas. Donc, on ne serait pas remonté. Donc, vous voyez, il y a un tas de conditions logiques, simplement, qui font que la physique vous donne pas beaucoup de contraintes, mais quelques-unes. Cela, c'en est une. Donc, on ne fera jamais le tour de l'univers. Mais il y a tellement de choses à voir sur Terre, dans le système solaire, dans les parages, qu'une vie n'y suffira pas. Donc, ne soyons pas inquiets. Il nous reste de quoi visiter.
Moi, j'aimerais bien croiser André Braik dans l'univers. En tout cas, ça a été émouvant et plaisant de réentendre sa voix. Aimez-vous les colliers ? Êtes-vous un garçon ? C'est pas très facile de porter un collier quand on est un garçon, à moins d'être président de la République. Et quel collier ? Le collier du président de la République est en or massif, il fait presque un kilo. Il existe depuis Vincent Auriol. Rappelez-vous le portrait officiel du président Pompidou ? On le voit avec son collier. C'est le dernier à l'avoir porté d'ailleurs. Chaque médaillon est gravé au nom du président. Emmanuel Macron s'est fait graver le sien cette semaine. Il ne reste que 3 médaillons, il paraît.
Bonjour, j'ai 4 ans et demi et je m'appelle Thibault. Je voudrais savoir s'il existe des mythes de pierres précieuses en France.
Bonsoir Simon. Patrick Voileau, spécialiste des pierres précieuses, auteur de ce livre aux éditions Trésor sur la piste des pierres précieuses. Alors Simon, seulement il y en a en France ?
Alors Simon, tu prends ton sac à dos, ton marteau, et tu demandes à ton papa et à ta maman de t'emmener, par exemple, en Auvergne. En Auvergne, on trouve des saphirs dans une rivière qui s'appelle le Riou-Petzoyou, voilà, qui est au pied d'un volcan, qui a fabriqué des saphirs il y a des millions d'années. Et avec l'érosion, les eaux de ruissellement, le vent, on retrouve dans les rivières autour de ce volcan des saphirs. Mais on trouve aussi du péridot, qui est une pierre verte. Et puis en Auvergne, on trouve de l'améthyste. Il y a une mine, ça c'est la première mine où je suis allé quand j'étais petit. J'avais sûrement presque ton âge.
Et c'est de là qu'est venu votre goût pour les pierres ?
En partie, oui, en grande partie. Oui, parce que aller chercher des pierres, c'est aussi une aventure.
Ouais.
Donc on partait, on avait un plan avec un gisement soi-disant d'améthyste. Et alors le plan était très mal fait, il fallait retrouver. Et quand on retrouvait, c'était comme la découverte d'un trésor. Ouais. Donc va chercher des pierres en Auvergne.
Magnifique. Alors, quand je vous entends parler, parce que vous dites l'érosion, Patrick Voileau, si je comprends bien, dans ce domaine des pierres, plus c'est usé et mieux c'est, parce que plus elles ressortent de la terre, en fait.
Non, mais en réalité, vous savez, nous sommes sur des plaques tectoniques, des plaques qui flottent sur le magma, et quand ces plaques se rencontrent, ça fait monter les montagnes. C'est-à-dire que l'Himalaya, les Alpes, etc., sont dus au choc entre des plaques tectoniques. Les roches et les pierres précieuses qui se sont formées très profondément dans la Terre ressortent progressivement. Et en réalité, la vitesse à laquelle ressortent est à peu près la vitesse à laquelle l'érosion, c'est-à-dire la pluie, le vent, la neige, le gel, vont éroder ces pierres. L'Himalaya monte, par exemple, de 2 cm par an. Et bon, les montagnes de l'Himalaya sont toujours à peu près à la même hauteur, parce qu'elles s'érodent. Mais par contre, on peut trouver, j'ai fait d'ailleurs un film, et je parle dans mon livre d'une mine d'aigues marines qui se trouve à 6000 mètres d'altitude. Il est bien évident que les aigues marines ne se sont pas formées à 6000 mètres d'altitude. C'est au cours des très très nombreuses années, des millénaires et des millionnaires même, d'années qui ont fait monter ces montagnes, que ces pierres sont parties de très profondément dans la terre et sont remontées en haut de ces montagnes.
Train in Vain sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux. L'hôpital psychiatrique parisien Sainte-Anne a célébré cette semaine ses 150 ans, avec visite du parc, 7 hectares classés espaces verts protégés, un jardin magnifique avec des statues, des arbres remarquables. Et cet hôpital a été construit en 1867, donc sur 13 hectares de terrain truffés de carrières et de catacombes, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Sainte-Anne accueille 34 000 personnes en souffrance par an. Et j'en profite pour vous dire qu'un malade mental est quelqu'un qui souffre, qui a peur le plus souvent, pas quelqu'un de dangereux, même si des actes violents ont été commis par des déséquilibrés. Des actes violents ont aussi été commis par des gens sains d'esprit. Seulement dans ce cas, on ne le signale pas. Alors qu'on précise toujours, c'est l'acte d'un déséquilibré quand c'est le cas. Vous pouvez lire le livre d'Oliver Sacks, « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » édité au Seuil, ou bien une Bible, un classique, un incontournable, « L'histoire de la folie » édité chez Talendier de Claude Quettel.
Bonjour, je m'appelle Ève. J'aimerais savoir quelle était la destinée des malades mentaux qu'on appelait fous à l'époque, avant qu'il y ait des structures aménagées pour eux. Merci, au revoir.
Bonsoir et merci pour ta question. C'est Claude Quettel qui est historien et qui a écrit une histoire de la folie chez Talendier qui va te répondre.
Voilà une question importante. Alors, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que on s'est toujours occupé des fous. Il y a toujours eu des fous au sens fou malade, du malade mental. On a toujours pris soin d'eux dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, on s'occupe de les soigner avec toutes sortes de médecines, des médecines chimiques. On leur donne des calmants, les dérivés de l'opium datent de l'Antiquité. Par des moyens aussi des fois un peu magiques, on les emmène au temple pour que les dieux leur envoient la guérison. Par des moyens aussi de psychothérapie, on emploie avec eux la douceur, on les isole, on leur change les idées, à partir d'une certaine fortune tout de même, si on veut quand même avoir un maximum de soins. Et puis, s'ils deviennent franchement dangereux, si le fou, le jour du marché, renverse tous les étals, écrase les fruits sous ses pieds, bon, on l'enferme. Alors, le plus doucement possible. Là aussi, c'est une autre légende d'avoir pu penser qu'on était violent, méchant avec les fous, qu'on les mettait dans les fers. Oui, ils vont être dans les fers au Moyen-Âge. Mais pourquoi est-ce qu'on les met dans les fers au Moyen-Âge, les dangereux ? Parce que il faut pas qu'ils s'échappent. On s'échappe au Moyen-Âge, on s'échappe d'une prison, ce n'est pas Fleury mais Rogis. À l'époque, les prisons, elles tombent en ruine, c'est toujours des vieilles tours. Et donc, on les met dans les chaînes, on les charge de chaînes, simplement pour pas qu'ils s'évadent et puis qu'ils recommencent. Il y a des fous quand même criminels. Et puis, sous l'Ancien Régime, ce qu'on a appelé l'Ancien Régime, c'est-à-dire au temps des rois, de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, sous l'Ancien Régime, on a longtemps dit que les fous étaient enfermés par le pouvoir. Mais ce sont les familles qui demandent à enfermer leurs fous. C'est-à-dire que dès l'Ancien Régime, dès avant les hôpitaux psychiatriques, il va y avoir un tas de maisons qu'on appelle des maisons de force, qui sont tenues par des religieux, et la famille paie pension, et elle peut recevoir des fous, à condition qu'il ait été bien établi qu'ils sont fous. On a souvent cru que sous l'Ancien Régime, on peut enfermer qui on veut, comme on veut. C'est faux. Il y a une enquête. L'intendant envoie un subdélégué, des fois, dans la neige, c'est deux jours de voyage à cheval. Il arrive au fin fond de l'Auvergne pour simplement constater que la famille qui veut faire enfermer tel fou, eh bien, elle a affaire bel et bien à un vrai fou. Alors à ce moment-là, on l'enferme en payant pension. Mais en payant pension, ça ne règle pas le problème des fous indigents. Et ces fous indigents, à la fin de l'Ancien Régime, lorsque commence la Révolution, posent un vrai problème. Mais comme la Révolution, puis ensuite tous les bouleversements politiques vont faire que les régimes vont se suivre et à grande vitesse, il faudra attendre pour la France 1838, la loi de 1838, pour que enfin, il soit créé des vrais hôpitaux pour eux, qui seront, alors on ne les appelle pas encore hôpitaux psychiatriques, qui seront les asiles d'aliénés de l'époque, parce qu'on s'imagine, depuis on s'est aperçu que ça fonctionnait pas du tout, mais à l'époque on pensait que l'asile en lui-même était un instrument de guérison, et que le seul fait de conduire, on dit à l'époque, un aliéné à l'asile, ça suffirait pour le guérir. En fait, ça n'a pas du tout marché.
Claude Quettel est historien, spécialiste de l'histoire de la maladie mentale. Les petits bateaux, c'est terminé pour ce soir. Merci à Marjorie Devoucoux, à Hélène Girard, à Jean-Baptiste Audibert, à Maxime Ingrand. Vous pouvez bien sûr faire un tour sur notre site ou bien télécharger cette émission. Nous avons rendez-vous ce soir dans État d'esprit. Nous parlerons des mères, des grands hommes et des rôles qu'elles ont joués, bien entendu, avec l'historienne Sabine Melchior Bonnet. Vous pouvez écouter La Tulu, Mon Petit Loup avec Denis Chessou, c'est maintenant.